la liturgie se situe par rapport à la révélation dans la tradition. Sûrement. C'est dans la tradition, dans la vie de l'Église. Et la vie de l'Église, c'est la tradition. Ça forme la tradition. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus précis que la tradition. La liturgie. Il y a diverses liturgies dans l'Église. Orientale, occidentale. La liturgie des chartreux. La liturgie, et ainsi de suite, des dominicains. Il y a des modalités diverses. Si l'on considère, par exemple, certaines hymnes, Saint-Éphrem, ou canons eucharistiques, qui font autorité dans la tradition. Oui, c'est là la question. Les canons de la messe relèvent de l'autorité du Saint-Père. Mais parce que dans la liturgie, c'est quand même la perle précieuse. Parce que ça touche l'Eucharistie. Donc là, il y a l'autorité du pape. Alors, est-ce que l'autorité du pape est infaillible? Mais toutes ces questions, c'est ça, c'est vraiment les lieux dialogiques. Est-ce que l'autorité, on va voir tout de suite la question de l'autorité. C'est l'autorité. C'est sûr que la liturgie dépend du Saint-Père, dépend de l'autorité des évêques. Certaines choses sont laissées aux évêques, d'autres choses sont laissées au pape, d'autres choses sont laissées aux bedeaux et aux sacristains. Dernière autorité, l'autorité des clés. C'est très très matériel, mais c'est quand même important. On sonne la cloche. Pour les lieux théologiques, ne faut-il pas ajouter, à côté de la philosophie, toutes les autres sciences? On n'a pas encore vu les autres autorités. Hein. Ici, on est uniquement dans la mesure où elles peuvent nous dire quelque chose de réel, que la philosophie et la révélation ne peuvent pas. Bon, très bien, c'est pas encore plus ça. Bon, on était resté à la liturgie. N'est-ce pas? Les saints, la liturgie. Alors, on peut le mettre. C'est évident que c'est à l'intérieur de la tradition. C'est l'aspect des gestes. Ce qu'on a dit, paroles et gestes. C'est les gestes et les paroles. Les paroles sont les paroles ordinairement de saints ou les paroles des psaumes dans l'Écriture. Donc, là, c'est l'autorité des... Très net, c'est déjà vu. Ce que je veux dire, c'est l'ensemble, l'organisation, la liturgie de la messe, la liturgie des sacrements. Ça dépend de l'Église. Ça dépend de l'autorité de l'Église. À l'intérieur de la tradition, sûrement. Y a-t-il révélation? Je crois pas. Je crois que ça relève de la prudence de l'Église. Donc du gouvernement de l'Église. Je ne mettrai pas un aspect de tradition particulier. Tandis que les saints, il y a autorité et aspect de la révélation. Quand le Saint-Père proclame ça, il est infaillible. Tandis que pour la liturgie, je ne crois pas que ça engage le point de vue de l'infaillibilité. Sauf les canons, peut-être. Ça, je laisse ça réfléchir là-dessus. Mais, puisque ça fait partie de ce qu'on va voir, l'enseignement. Il suffit de regarder la révélation. Maintenant, je regarde la liturgie, les encycliques, les lettres encycliques, c'est pas l'infaillibilité directe. Et je crois que c'est à peu près la même chose. Mais ça se toucherait paroles et gestes. Les lettres encycliques, la liturgie. Évidemment, dans la liturgie, les parties les plus importantes, comme le canon. C'est sûrement que le canon a quelque chose de particulier. Les paroles de la consécration, ça s'est révélé, ça c'est sûr. Donc là, il n'y a problème. Ça fait partie de l'écriture.
C'est vrai. Par rapport à tous les sacrements, ce qui est...
Tous les sacrements. Je prends l'Eucharistie puisque c'est la clé. Et pour tous les sacrements, c'est comme ça. C'est la tradition de l'écriture. Et du reste, je crois qu'il faut tout le temps se dire que les sacrements ont été institués par le Christ, pas nécessairement que le trouver dans l'écriture, mais la tradition. La tradition remonte aux apôtres et remonte au Christ. Et vous avez donc là la question des gestes, fruits et sacrements. Les sacrements sont à l'intérieur de la liturgie, de l'Église. La liturgie est une liturgie sacramentelle et les encycliques. C'est l'enseignement habituel de l'Église qui, en raison même de sa continuité, prend une valeur très particulière. Vous voyez, je ne peux pas m'opposer au sacrement dans la mesure où les sacrements dépendent du dogme. C'est dans le dogme. Concile de Trente a défini 7 sacrements. Donc ça fait partie du dogme. Les paroles définissent l'écriture ou la tradition. Donc là aussi. Mais je parle de la liturgie comme liturgie, c'est-à-dire la manière, le cérémonial, si vous voulez, la manière d'organiser une cérémonie, la manière d'organiser la liturgie de la messe. Il me semble que c'est une autorité, il me semble que ça ne touche pas, parce que c'était par rapport à la révélation qu'on regardait ça. Comprenez bien, oui.
Large, on pourrait dire que la liturgie fait partie de la révélation. Mais il me semble que c'est beaucoup plus prudent de dire que la liturgie est plutôt servante de la révélation. Parce que si nous voyons la liturgie au sens large, on utilise que la parole de Dieu, on utilise les dons.
Oui, c'est pour ça que je dis, c'est impliqué dedans. Ce que je parlais ici, liturgie, pas de partie de la liturgie, vous voyez. Je prenais l'organisation. Bon, prenez les petites heures. Ça fait partie de la tradition monastique. Est-ce que je dois dire que ça relève de la révélation? Je n'oserais pas dire ça. Je n'oserais pas dire que l'organisation des heures fait partie de la révélation. Alors vous allez dire, 7 fois le jour. Vous voyez? Dans le psaume, on rencontre le Seigneur. Mais c'est 7 fois le jour, c'est pas plus. C'est-à-dire, 7, le livre qui est parfait, il faut tout le temps louer le Seigneur. C'est comme ça le sens symbolique de l'Écriture. Mais l'organisation des heures, l'organisation des cérémonies, l'organisation de ce qu'on représente un baptême, de l'extrême onction, ça change dans l'Église. Et ça a changé beaucoup. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que ça relève directement de la révélation. Ça relève du gouvernement de l'Église. Vous voyez, comme les encycliques. Les encycliques, c'est l'enseignement commun de l'Église. Et la liturgie, c'est la pratique commune d'Église. Alors, ce qu'on dit ordinairement, c'est que s'opposer aux encycliques, c'est se mettre dans une situation imprudente au point de vue de la foi. Très imprudente, étant donné la sagesse de l'Église, mue par l'Esprit Saint. C'est ce qui me semble. Mais alors, on va... Oui, attention. Oui, j'ai situé par rapport à la révélation. Maintenant, nous allons entrer dans le point de vue autorité par rapport au théologien. Parce que c'est le théologien qu'on regarde. Oui, alors, votre question, c'est plutôt par rapport à l'autorité que ça. Par rapport à la théologie. Vous voyez, il y a deux regards différents. Ici, nous regardons les manières différentes dont la révélation nous est donnée. Toujours en vue de comprendre ce que c'est que la théologie. N'oubliez pas, hein, c'est pas la vie chrétienne tout court. C'est la théologie que je regarde. La théologie repose sur la révélation. Il y a diverses manières de la révélation. Maintenant, je vais regarder les autorités. Dans la structure de la théologie. Je crois que vous voyez bien ces deux points de vue différents. Ça se touche, c'est évident. C'est... Je peux tout de suite, à partir de là, induire l'autorité. Vous voyez c'est... D'une certaine manière, je pourrais très bien m'arrêter là. Je crois que c'est bon quand même de préciser. Je suis un théologien. Je dois traiter un sujet très grave. La liberté religieuse. Puisque ça a été secoué dans tous les sens. La liberté religieuse. On me demande, un évêque me demande, père, je voudrais un petit dossier sur la liberté religieuse. Vous êtes un théologien ? Faites-moi ça. Ça arrive, ça. Ou l'école libre. Faites-moi un dossier sur l'école libre. Les évêques, entre eux, font ça dans leur rencontre à Lourdes. Ils traitent un sujet, l'école libre. Ils veulent un traité, ils veulent qu'il y ait le point de vue du théologien. Et puis eux, le point de vue pratique. Et il y a le point de vue du théologien. Et c'est vrai, si j'entre dans la complexité de l'église, d'une paroisse, hein. Je voyais l'autre jour à Tichy, puisque j'étais en face d'un jeune curé, n'est-ce pas, donc, il découvre la complexité de la paroisse. Parce qu'avant d'entrer, bon, il s'en occupait pas beaucoup. Et puis, maintenant, il tient, il n'a jamais été sacristain, donc, il ne savait pas très bien comment il fallait faire. Bon, autorité dans l'église. C'est très complexe. Et là, l'organisation de paroisse n'est pas la même à Tichy et à Genève. Et à Zurich. Et en Amérique. Alors, ça regarde quoi ça, le gouvernement d'église. Je ne vais pas traiter ça ici. Hein. Je ne suis pas compétent pour ça. J'ai vu des délégations de prêtres venant à Rome des différents diocèses pour visiter tous les différents lieux d'autorité de Rome. Qu'est-ce que représente l'ex-Saint-Office? La doctrine de la foi. Qu'est-ce que représente la liturgie, les laïcs, et ainsi de suite. C'est évident, ça fait partie du gouvernement d'église. Quelle autorité? D'où ça sort? Le gouvernement d'église. Donc en dernier lieu, la juridiction du pape. Est-ce que c'est infaillible? Non. Non, c'est pas infaillible. Ça pourrait être organisé autrement. Mais il y a une tradition. Il y a un poids de tradition. C'est pour ça que c'est si difficile de changer. C'était le conseil d'un pape à l'égard de son futur pape. Ça m'a été dit. C'était ceci. Il n'y a pas un secret, ça ne m'a pas été confié comme un secret. Mais ça faisait partie du testament du pape par rapport au suivant. Là, pour le pape suivant. Je lui conseille que s'il y a des changements à faire à la curie romaine, qu'il faut les faire tout de suite. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, qu'on est pape, on ne peut plus rien changer. Je ne dirais pas ça, novice. Je vois très bien ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'il y a un poids de tradition, qui faut être très lourd à porter. Et d'autre part, ce poids de tradition donne à la barque de pierre du plomb qui lui permet de rester à peu près droit. Parce que c'est trop discuté. Vous n'arrivez pas tout de suite à être cardinal. Mais c'est par pire, c'est top. C'est au niveau cardinaliste que ça se fait. C'est la sagesse de l'Église. La sagesse du gouvernement d'Église. Qui fait que ça ne bouge. Ça se modifie. C'est évident, le pape actuel a modifié beaucoup de choses. Et ça se modifie à l'intérieur de la tradition. Ça, c'est le gouvernement d'Église. C'est pas ce que je regarde. Mais ça sert pour le gouvernement d'église. C'est la partie principale dans le gouvernement d'église. La partie principale dans le gouvernement d'église, c'est de maintenir une théologie saine. Ça, c'est sûr. C'est la doctrine. Donc c'est la partie principale du gouvernement d'église. Un pape doit s'occuper en premier lieu de la doctrine. En premier lieu. Et de maintenir une doctrine saine enseignée aux séminaristes. C'est-à-dire aux futurs prêtres. Si j'enseigne aux séminaristes, c'est hérésie. Le mot séminariste n'y voit rien au début. Sauf s'il a une foi très grande. Allez redire alors au directeur. Tel professeur, pas très juste. Pas très juste. Est-ce qu'on peut dire ça? Un directeur alerté par un novice, parce qu'il sait que le novice ira jusqu'au bout, du moins alerté par un séminariste, que le séminariste ira jusqu'au bout de son enquête, il même dira, tiens, est-ce qu'on peut dire ça? Il ira demander à son meilleur théologien, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Et le théologien réfléchira sur les lieux théologiques. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Vous voyez, c'est dans l'Église, ce point de vue de la doctrine qui est capital. Pour nous, puisque le Saint-Père nous demande d'être des apôtres, l'aspect doctrinal est capital. Je ne dis pas qu'il est premier. Il y a la formation religieuse qui est avant. Pour nous. Pour tous les jeux. On est des saints avant d'être des érudits et des savants. On est des saints. Et c'est pour ça que c'est très heureux dans la vie religieuse. Il y ait pour les hommes des religieux qui soient dans la vocation, fait qu'ils ne sont pas prêtres. Parce qu'ils maintiennent quelque chose de typiquement religieux. Tout novice est bon novice, hein, ça. Je me souviens, à mon noviciat, au bout de 6 mois, j'étais tombé en permette en disant, je crois que ce serait mieux d'être frère convert. On était un cadre avec cette démarche. On avait parlé entre nous, en bon esprit du reste. Mais on s'était dit, il faut faire ça. Et le permettre a dit non. Vous devez continuer. Et je crois que c'est normal, ça. Vous voyez, c'est bon, c'est sain. Notre vocation choisie, c'est d'être totalement donné à Jésus. Et on accepte le sacerdoce que si on vous le donne. Que si on vous le donne. Autrement, on comprend très bien. Aucun droit. C'est le danger du séminariste qui croit avoir des droits parce qu'il a des études. Les études ne donnent aucun droit. C'est une condition nécessaire. Mais ce n'est pas un droit. On reçoit gratuitement les ordres. Et on doit en user gratuitement. Autrement, c'est la simonie. On en use gratuitement. Et on en use selon l'autorité de ceux auxquels on est soumis. C'est le pouvoir juridique. Mais dans l'Église, il y a avant tout le point de vue pouvoir doctrinal. C'est la doctrine qui est première. Vous comprendrez bien dans le gouvernement, parce que je ne peux pas gouverner la sainteté. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais je gouverne la question d'enseignement. Bon, alors, vous avez là, je crois, tous les aspects de la révélation et ce qui est les conséquences et les applications ou les préparations. Ça dispose, ça aide. Où c'est le fruit. La liturgie est le fruit de tout ça. Et les encycliques disposent à quelque chose de nouveau. C'est nécessaire. Ça oriente. Et ça dépend aussi de tout ça. Et ça relève donc de la prudence de l'Église. Maintenant, pour avoir les lieux théologiques, pour qualifier quelle autorité représente dans la théologie ce point de vue de la révélation telle que je vous l'ai donnée. Donc, rappelons que si, en philosophie, l'autorité est la dernière des raisons, donc je ne me pose pas la question de l'autorité en philosophie. J'étudie ce qu'est l'autorité. Mais le philosophe, comme tel, est très libre. L'autorité, c'est la réalité. Parce que si confond la réalité et ses imaginations, il se cassera la tête. On doit en avoir autorité. La réalité viendra là le corriger. Il pourra se poser la question de l'autorité lorsqu'il sera en dialectique. C'est-à-dire quand il regardera l'opinion des philosophes avant lui. Alors il verra l'autorité de ces philosophes. Il ne mettra pas sur le même pied l'autorité de Blondel et celle d'Aristote. Pas tout à fait la même chose. Non. 2000 ans, parlerons-nous encore de Blondel. Et quelle est son autorité, comparativement? Bergson et Blondel, quelle autorité? Mais au niveau des dernières raisons, c'est-à-dire aucune autorité pour la démarche et la recherche philosophique pour elle-même. Mais c'est quand je n'ai pas découvert, je m'appuie sur l'autorité. Bergson a dit, notre monde d'aujourd'hui aura besoin d'une surâme. Je peux répéter ça. Ça fait bien. C'est une autorité qui est donnée. Oui. Et qui aide. Et qui conduit. Mais je ne construis pas à partir de là. Tandis qu'en théologie, la science théologique, la théologie, repose sur l'autorité. Par le fait même, il est nécessaire de voir quelle est l'autorité première. Quelle est l'autorité essentielle. Absolument nécessaire. Et tout théologien doit savoir ça. Tout prédicateur doit savoir ça. Alors, on va mettre en septième lieu la philosophie. Puisque la théologie est une synthèse mixte. Avec l'intelligence humaine. Que j'ai découvert là, que je retrouve ici. Est-ce que la philosophie fait autorité en théologie? Oui. On se pose la question. Vous ne sauriez pas répondre tout de suite, hein? On va voir au vote. Suffrage universel. Non, t'es levé la main pour le premier, pour le second. Comme ça, on verrait tout de suite si vous avez compris. Puisqu'il s'agit de la révélation, je ne regarde que d'abord la révélation, en premier lieu. Alors, qu'est-ce qui fait autorité majeure en théologie? La théologie est une théologie chrétienne. Donc, la révélation... Il s'achève avec le Christ. Tout ce qui est révélé est immédiatement révélé et qui conduit au Christ. Mais le Christ représente le maximum. Je n'ai le droit, en théologie, de rien abandonner de la révélation. Toute cette révélation écrite l'écriture a l'avantage c'est que c'est précis et au point de vue autorité les précisions sont toujours très importantes donc c'est pour ça que je place en premier lieu l'écriture au point de vue de la révélation au point de vue de la théologie en premier lieu nourriture de ma foi, la parole de Dieu, donnée dans l'Écriture. Et donnée dans la tradition. Là aussi. Mais la tradition est beaucoup plus difficile à préciser. Beaucoup plus difficile. Mais il y a des données quand même qui sont très nettes dans la tradition. Par exemple, je prends un exemple, parce que j'ai fait l'enquête moi-même, c'est pour ça que je peux donner l'exemple. Par exemple, la capacité de l'intelligence humaine à découvrir l'existence de Dieu. Vous allez me dire, maintenant c'est facile puisque c'est dans un dogme. Pas un dogme, mais dans l'enseignement d'Église, du conciliaire, à côté du dogme. L'Église la considère comme fidéiste, donc elle écarte. Donc elle la considère comme une vérité révélée. Que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. tradition le dit, a été brisé avec Luther. Il y avait des préparations à Luther, mais les théologiens ne disaient pas la même chose à partir de Occam. Et c'est Luther qui, de fait, met une brisure dans la tradition. Ça, il faut le reconnaître. En faisant passer devant l'écriture plus que la tradition. Alors qu'il y avait l'ordre inverse, la tradition enveloppait l'écriture. Et là, on fait passer l'écriture avant. Sola scriptura. Mais on ne dit pas seulement la parole de Dieu, mais seulement l'écriture. On sépare l'écriture de la tradition. C'est sûrement quelque chose qui va très loin. Comme transformation, oui, comme révolution interne à l'intérieur de l'Église, de faire que la tradition soit mise de côté et que l'écriture prenne le pas sur la tradition. Il faut se tenir compte de ça, puisque donc la tradition est collée à l'écriture, et inséparable. Tradition dans l'Église. Puis, l'écriture également. Les dogmes. Les dogmes sont donnés révélés pour le théologien. Donc, même autorité. Tout ça, la même autorité. Une autorité première, absolue. Je peux commencer ma théologie par le dogme. Si je suis vraiment un bon théologien, j'essaie de voir comment le dogme est enveloppé de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, à quel moment elle a été vraiment révélée? Ça m'intéresse. Pour la création, par exemple. À quel moment je peux dire que la création est révélée? C'est intéressant. Ce n'est pas fondamental, ce n'est pas primordial, mais c'est intéressant pour le développement. Saint-Thomas n'en parle pas beaucoup. Il est situé. Je crois que le point de vue des saints n'apparaîtront que dans une théologie de l'économie divine. Mais ça fait partie de la théologie. Puisqu'il relève de la révélation. L'économie divine. Les encycliques, quelle autorité? Les encycliques, je ne partirai jamais en théologie d'un texte d'une encyclique. Je peux, mais c'est pas autant que possible, je rattacherai cette encyclique à quelque chose qui est révélé. Parce que ce n'est pas une autorité sur laquelle je peux m'appuyer absolument. Comme la liturgie. La liturgie, un peu plus peut-être. Mais c'est assez équivalent. Mais c'est une autorité, je dirais, qui est immédiatement après la révélation. Ce qui n'est pas absolu. Il faut revenir toujours à la révélation, dans ce qu'elle a de plus immanent, pour s'en servir. Et la liturgie, c'est surtout dans la pratique. Donc, ce sera surtout dans la théologie de l'Église que je la verrai. Exactement comme la vie religieuse et la vie monastique. Et comme les sacrements font partie essentielle de l'Église. Bon, vous voyez, il y aura donc deux autorités bien distinguer l'autorité absolue. Le théologien s'appuie sur cette autorité. Et puis, une autorité qui n'est plus avec le même caractère absolu, Et ce serait souverainement imprudent de m'en séparer. La liturgie et les encycliques. Et puis la philosophie. Quelle est l'autorité de la philosophie? La philosophie a autorité pour... La philosophie, son autorité lui vient du fait qu'elle atteint la vérité. Si une philosophie atteint la vérité, on l'a suffisamment secouée dans tous les sens pour être sûr qu'elle atteint la vérité. Alors, elle a autorité puisqu'elle dit la vérité. Mais elle n'a pas une autorité révélée. Mais l'autorité. La vérité s'impose à mon intelligence. Donc elle a autorité. Par elle-même. Pas besoin de chercher une autre autorité. Une opinion en philosophie aura valeur d'opinion. Pas plus. Donc je vois que pour que la théologie soit certaine, je dois me fonder sur la révélation, selon ses diverses modalités, et sur la philosophie saine.
Est-ce que le magistère de l'Église n'est pas premier dans l'ordre des autorités, dans l'ordre des quatre niveaux d'autorité de la révélation?
Ah, il est ultime, puisque le magistère de l'Église s'appuiera toujours sur l'Écriture. Il est ultime dans l'exécution. Mais il n'est pas fondamental, il n'est pas premier. Sans que le premier, c'est quand même la révélation. C'est le Christ. C'est pas le magistère de l'Église. Je suis plus, vous voyez, je suis plus immédiatement lié dans ma foi au Christ qu'à l'Église. Comprenez ce que je veux dire. En ajoutant tout de suite, croire en l'Église et croire dans le Christ, c'est la même foi. Jeanne d'Arc l'a dit, ça fait partie de la tradition et des saints. Et puis, je me souviens, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était quelqu'un que je connaissais bien qui avait assisté à une conférence, il y a quand même 15 ans de ça. Oui, parce que c'était au moment des discours. J'ai entendu une conférence, me dit-elle, qui disait qu'il fallait toujours bien distinguer l'autorité du Christ, notre foi dans le Christ, et notre foi dans l'Église. Alors elle m'a dit, immédiatement quand j'ai entendu ça, la parole de Jeanne d'Arc m'est revenue. Qu'est-ce que vous dites en tant que théologien? Alors qu'est-ce que vous auriez dit en tant que théologien? Théologien, merde. Qu'est-ce que vous auriez dit avec votre sens de la foi? Waouh, magistère! Qu'est-ce que vous auriez dit?
Faut distinguer mais pas séparer.
Quoi?
Faut distinguer mais pas séparer.
Faut distinguer. Donc c'est pas la même foi.
C'est tout
seul. Quoi? On distingue formellement des choses qui ont des raisons différentes. Thomas. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est la même foi pour vous? Croire en Jésus ou croire en l'Église? Dites.
Oui.
Non, j'ai rien. Vous êtes paisible. Oui, c'est la même foi. Croire dans l'Église, le mystère de l'Église, le mystère du corps mystique, le mystère de l'Église visible, c'est la même foi. Il n'y a pas deux fois différentes. Puisque je crois en l'Église à cause de Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'a institué. Vous voyez, il y a un lien de nécessité entre les deux, puisqu'il l'a fait. Nécessité de fait. Il aurait pu très bien ne pas le faire. À ce moment-là, l'Église n'aurait pas existé. Donc, ma foi en l'Église n'aurait pas existé. Je dis, l'Église comme telle. Après, on dira, ah, l'enseignement de... Ah, c'est pas la même chose. Je ne crois pas de la même façon mon évangile de Saint Jean et l'encyclique sur le travail. Est-ce que c'est la même foi? Vous lisez l'encyclique, la dernière encyclique du pape. Rerum vanum. puis vous lisez l'évangile de Saint Jean. Est-ce que c'est la même foi? Hein? Regardez votre voisin, il pourrait peut-être... Olivier. Ah non. 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 Non, 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 non. L'encyclique du pape, je la lis avec beaucoup de révérence et de confiance. Il est ma foi. Mais c'est pas révélé.
Oui, c'est pas la même autorité, mais c'est quand même la même foi qui vient de
faire. Ah, c'est pas... Oui, mais la même foi. La foi sait très bien. La foi sait très bien ce qu'elle doit adhérer et l'on a en fonction d'autre chose. L'Église et le Christ sont liés nécessairement. De fait. L'encyclique du pape au Christ, est-ce qu'elle est liée nécessairement? Est-ce que dit le pape de ça? Je pourrais préciser. Je ne peux pas faire ça par rapport au Christ. La parole du Christ me sert de principe. Oui, pour m'illuminer. Une encyclique du pape, avant de... Elle me sert pour maintenant. Elle m'aide à comprendre certaines choses. Mais je pourrais très bien dire, ah, telle chose, il faudrait un peu préciser.
Mais comme vous disiez tout à l'heure que ce serait souverainement imprudent au niveau de ma foi...
Souverainement imprudent, voilà. J'ai dit imprudent, exprès, c'est de l'ordre de l'imprudence.
Mais ça, c'est ma foi qui me fait dire.
Oui, mais c'est l'imprudence, oui. Tandis qu'on nie la parole du Christ, est-ce que c'est souverainement imprudent? C'est contre la foi.
C'est vrai, c'est...
Oui, c'est contre la foi. Tandis que dire cette encyclique, alors, vous pourrez voir le poids d'une encyclique en fonction de la tradition. Et le Saint-Père souligne toujours ça dans son encyclique. Donc à ce moment-là, telle encyclique aura une valeur particulièrement forte en raison de la tradition. Et le pape souligne. C'est pour ça qu'il fait toujours référence au précédent, au précédent, au précédent. C'est pas par pour leur une petite politesse. C'est pas de la question de la politesse, c'est tout simplement pour que cette encyclique ait une valeur plus grande, parce qu'elle repose sur une tradition. Oui, la valeur de la tradition qui à ce moment-là devient. Et la valeur de la tradition, quand elle touche quelque chose qui regarde la destinée de l'homme, qui regarde le point de vue moral, a une valeur qui peut être infaillible. Mais c'est là où joue cette espèce de critique des lieux théologiques, de tous ces lieux. On ne peut pas les accepter tous de la même façon. Le théologien ne peut pas les accepter, mais non pas tous à la même autorité. Le bon croyant, n'est-ce pas, le bon croyant, viendra vous trouver, est-ce que je dois croire d'une façon absolue à cette encyclique du pape sur le travail? Je prends le travail. Qu'est-ce que vous lui répondrez?
Pas d'une façon absolue.
Vous direz, vous dites, Saint-Père, hein, il a une charge vis-à-vis de vous, il vous aide. Prenez-toi de prudence, c'est d'ordre pratique ça. Ça ne touche pas directement votre foi, le travail. Alors, attention, mais c'est d'ordre pratique. Si ça touchait l'Eucharistie, l'encyclique du pape, Mysterium Fidei, la transsubstantiation, est-ce que ça touche ma foi directement, d'une façon infaillible?
Ça s'appuie sur quelque chose qui est révélé, là, non?
Quoi? Ça s'appuie sur la doctrine de l'Église traditionnelle. Et ça s'applique sur la parole de Jésus, ceci est mon corps.
Donc là, ça tient son autorité de la parole du Christ, pas directement.
Ça explicite la parole du Christ. Et je ne peux pas l'expliquer autrement, l'Église a montré. Donc je reviens toujours, oui, à la tradition, ou à la parole d'Écriture. Et alors, la philosophie n'a pas d'autorité immédiate. Son autorité provient de la vérité qu'elle explicite. Alors à ce moment-là, elle a autorité en tant qu'elle dit la vérité.
Le travail a une certaine autorité.
Qu'est-ce qu'il y a?
Et de ce fait, l'encyclique sur le travail a une certaine autorité.
Oui, au point de vue de votre prudence. Et au point de vue de votre foi. Pas directement. Vous ne lisez pas de la même façon. C'est ça que vous voulez dire, oui. Est-ce que vous lisez, vous, de la même façon, l'encyclique sur le travail et la prière du Christ, chapitre 17 dans Saint Jean?
Non, mais en tant que chrétien, je sais que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu est vérité.
Mais, c'est évident que je sais que tu es vérité. mais l'encyclique du travail, c'est pas Dieu qui l'a dicté au Saint-Père. Vous voyez bien, il y a quand même des petits intermédiaires entre les deux. Et vous devez faire attention à ces petits intermédiaires. Je sais que le pape a beaucoup réfléchi là-dessus. C'est pour ça que d'autres papes l'ont pas fait. Pourquoi le pape a-t-il fait ici? C'est parce que c'est un problème qui l'intéressait beaucoup. Et qu'il voyait l'importance au point de vue prudentiel. C'est pour ça qu'il l'a fait. Il a compris que toutes les encycliques sur la justice sociale, il y avait un trou. On n'allait pas jusqu'au bout. La justice sociale repose sur le travail. Parce que le travail, ça ne se vend pas. Si vous avez des questions là-dessus, écrivez-les maintenant, puis on y répondra. Et je répondrai qu'aux questions écrites.